Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet avant-dernier numéro de Patara du mois de novembre 2021. Nous parlerons dans un instant de la tuerie d'au moins 12 civils dimanche dernier au village Mbembéré dans la sous-préfecture d'Ngaoundaï par les rebelles de 3R, bilan confirmé par les parents des victimes. Et pourtant, le président de la République a déclaré un cessez-le-feu unilatéral le 15 octobre dernier. C'est la quatrième fois que le groupe armé 3R viole cessez-le-feu en attaquant les positions des Faka et en tuant des civils à Kaïta, à Sangrélim, à Man et récemment Mbembéré. Depuis le massacre du dimanche dernier dans la sous-préfecture d'Ngaoundaï, ni le gouvernement centrafricain ni l'Assemblée nationale n'ont officiellement réagi. Cependant, les préfectures de Namambéré, de Limpende, de Luampende, de Luamfafa et de la Waka sont les théâtres de violations des droits de l'homme. Question Patara du jour. Est-ce que le massacre de ces 12 civils constitue une violation du cessez-le-feu proclamé le 15 octobre dernier? Si oui, quelles sont les mesures de riposte à ces agressions? Pourquoi l'intervention militaire arrive souvent après les exactions des rebelles? Plus de réponses à vos préoccupations et avec nos invités dans ce débat politique du premier média centrafricain, Radio Ndekeluka, M. Joseph Bendunga, bonjour.
Monsieur Armando Yangenji, M. Ngwandika, M. Ndota, les auditeurs de Radio Ndekeluka, la population de Bimbo 3, bonjour.
Bonjour, et vous êtes député et membre de l'opposition démocratique, Fidel Gwandika, ministre et conseil spécial du président Touadéra et membre du Conseil de sécurité nationale. Monsieur, bonjour.
Je salue la vaillante population de la Lobaye.
Et bonjour, Christian Emendota.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs.
Journaliste indépendant et observateur de la vie sociale, Armando Anguindi, c'est moi, une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, avant de démarrer ce débat, Radio Ndekeluka tient à informer ses auditeurs et internautes qui ne cessent de demander pourquoi, pour certaines questions qui touchent la vie de la nation, les représentants du gouvernement ne sont pas conviés. Nous avons à maintes reprises inviter les représentants du gouvernement dans tous nos débats. Cependant, ces derniers ne se sont pas rendus disponibles. À l'exemple du porte-parole du gouvernement Serge Ghislain Diori, qui a accepté de prendre part aux discussions d'aujourd'hui et qui, au dernier moment, n'a pas donné suite. Lançons ce débat avec vous, Christian Emendota. Quelle est votre réaction suite à ce drame de Ngaoundaï? Mais avant cela, on va y revenir pour parler de l'actualité parce que nous avons eu l'information au dernier moment de l'arrestation du ministre de l'élevage, Hassan Bouba.
Oui, tout à fait, Armando. Tu anticipes un peu dans mes pensées parce que en parlant de cette nouvelle tuerie, en fait, c'est pas la première fois que les 3R massacrent. Nous avons déjà eu des massacres documentés le 21 mai 2019. C'était dans les villes, les villages de Lemouna, Koundjili et Bohong, où des Centrafricains, tous des hommes, avaient été ligotés, mis à terre et exécutés par les 3R. À l'époque, Sidiki n'était pas encore tué, donc c'est pas une nouveauté. Mais puisque ça, on parle de l'actualité, je voudrais tout de même quand même me réjouir du fait qu'il y a un premier pas qui est en train d'être fait pour la justice de toutes ces victimes-là. Et l'arrestation de Hassan Bouba, pour moi, est déjà une petite victoire. C'est peut-être un menu fretin, mais quand même un poisson assez sérieux. Il reste maintenant Aline Daras et tous les autres, les Al-Khatim, les Abdoulaye Hissène, qui, je pense, est à Bangui. Toutes ces personnes qui ont du sang sur la main doivent être interpellées et incarcérées. Après, bien sûr, leur jugement. Puisqu'il y a des preuves de leur implication dans des tueries de masse dans notre pays.
Voilà, Monsieur Fidel, Monsieur Joseph Bindunga, d'abord sur cette question d'arrestation du ministre Hassan Bouba.
Le MDRC n'a fait que se réjouir parce que, comme vous le savez bien, nous avons toujours demandé l'arrestation de toute personne qui, de près ou de loin, faisant partie des groupes armés. C'est même le point de divergence entre le MDRC et le régime Touadéra. Mieux vaut tard que jamais, mais ça ne suffit pas. D'abord, tous les membres des groupes armés dans le gouvernement
actuel,
dans le gouvernement actuel, dans l'administration, c'est par rapport à la Constitution. Toute personne de près ou de loin associée à la déstabilisation du pays ne doit pas occuper une fonction de l'État. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'est peut-être l'article 26 de la Constitution qui dit cela. Donc, Hassan Bouba arrêté, eh bien, c'est normal. Et ce n'est qu'un début de commencement. On doit arrêter tous ces gens-là, mais on n'a pas mis les moyens qu'il faut pour arrêter ces gens. Et ceux qui sont au gouvernement, ils sont là et occupent des postes ministériels. Donc, je pense que c'est un début de commencement. Je les encourage à faire mieux que cela.
Voilà, Monsieur Fidel Gwandjika, vous l'avez déjà annoncé ici sur nos ondes, qu'un ministre jouit, bénéficie de l'humilité du gouvernement. Avec cela, le ministre Hassan Bouba aussi. Mais pourquoi aujourd'hui il est arrêté? Est-ce que c'est cette parole du président de la République qui dit son second quinquennat est placé sous le socle de l'impunité zéro?
D'abord, je voudrais m'incliner sur nos compatriotes, sur la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés pour certains sur le champ d'honneur et pour d'autres qui ont été lâchement assassinés par les fossoyeurs de la République, qu'on continue toujours de qualifier groupe armé. Cette qualification incombe également au gouvernement, au Parlement et à la MINUSCA, c'est-à-dire la communauté internationale. Il faudrait qu'on arrête un jour et qualifier ces gens de terroristes. Lorsqu'ils seront mis dans la catégorie des terroristes, ils seront traqués selon la manière qu'on traque les terroristes. Je suis content d'entendre l'honorable Bendunga, Joseph Bendunga, ici présent, qui dit que dans le gouvernement, il y a encore des complices de ces fossoyeurs de la vie de nos compatriotes. Il n'y en a pas seulement au gouvernement, il y en a partout. Dans la haute administration et également au niveau du Parlement. Il y a des complices partout. Et donc, la justice doit faire son travail. Et la justice commence à le faire avec l'arrestation surprise du ministre Hassan Bouba, qui jouit de l'immunité ministérielle. On n'a pas demandé au président de la République ni au Premier ministre de lever son immunité pour qu'il aille comparaître devant une juridiction nationale ou supranationale. On l'a arrêté parce qu'on doit l'arrêter. Nous avons vu, il y a eu des complices de coup d'État. Un coup d'État, c'est un crime imprescriptible contre le peuple souverain. C'est une déclaration de guerre contre la nation. C'est un crime contre l'humanité. Et il y a des complices également qui sont libres dans le gouvernement, dans la haute administration et au niveau de l'Assemblée. Lorsqu'on a seulement essayé de demander aux députés de se prononcer sur la levée de l'immunité de certains fils de la nation qui seraient impliqués dans un coup d'État, et c'est la tollée. Les gens de l'opposition s'arc-boutent, veulent tout boycotter. Et vous voyez, la dame justice, elle est lente. Mais elle aboutit toujours.
Voilà, c'est l'actualité. Nous revenons à notre sujet. Je reviens vers vous, M. Christian Emendota, sur la question de votre réaction par rapport à ce drame de Ngaoundaï, parce que c'est le sujet principal de notre débat d'aujourd'hui. Où je parle de Ngaoundaï, c'est dans la sous-préfecture de Ngaoundaï, mais c'est plus précisément à Mbaimbéré, le village Mbaimbéré, dans la commune de Man.
Non, je disais tout à l'heure que c'est pas, malheureusement, c'est encore une tuerie de plus. Et c'est toujours les mêmes, les 3R. Finalement, les 3R, soi-disant un groupe armé, entre parenthèses, je suis parfaitement d'accord avec le ministre Gwandjika qui disait que le terme de groupe armé, nous c'est depuis, avant l'accord de Khartoum qu'on disait appeler des criminels groupe armé pour faire politiquement correct dans les différents rapports, aussi bien nationaux qu'internationaux, c'est une insulte. On sait par exemple ce qui s'est passé le 21 mai 2019, toujours dans cette région, où on a tué 41 centrafricains, exécuté 41 centrafricains. Le gouvernement n'a pas réagi jusqu'aujourd'hui. On a attrapé 3 personnes, soi-disant c'était eux qui étaient les commanditaires. On a remis à la justice jusqu'aujourd'hui, rien du tout. Quelques mois plus tard, en 2020, les mêmes 3R n'ont pas seulement attaqué les civils, mais attaqué l'armée, les forces armées centrafricaines. Dans plusieurs régions, que ce soit dans l'Ouampéndé, que ce soit dans la Mambéré, excusez-moi d'utiliser les anciennes appellations des régions, puisque pas encore tout à fait coutumié avec ces nouvelles appellations. Donc, il n'y a jamais eu de réaction en tant que telle. Je pense que les forces armées centrafricaines ont une capacité pour pouvoir contrer ces éléments. Mais ce que je regrette, c'est qu'il y a une sorte, j'allais dire, de complicité avec le gouvernement. On se rappelle, à l'époque, avec le ministre Wanzeli Nguissara, qui accompagnait le défunt Sidiki pour désarmer certains éléments. Ce monsieur disparaît, et ensuite, il y a des attaques contre les forces de défense. Pas de réaction du gouvernement. Je mets une parenthèse en disant, depuis que le ministre Hassan Boub a été arrêté, je n'ai pas encore eu de réaction. Je ne sais pas si vous avez des réactions.
Il n'y a aucune aussi réaction, bien de la présidence, même
aussi bien du gouvernement. Logiquement, c'est un ministre de la République qui est quand même arrêté. Même si c'est un criminel, je pense qu'un décret devait entériner cette arrestation.
Pour l'instant, on ne peut pas le qualifier puisqu'on attend son jugement pour dire ce que c'est un criminel.
C'est un criminel, on le voit, Hassan Boub avec une Kalachnikov en main. Oui, sur le théâtre des opérations.
Mais quand même, il bénéficie de présomption d'innocence.
Non, c'est des termes juridiques qu'on utilise. Il y a des photos, il y a des témoignages qui ont montré, qui démontrent que Hassan Boub est un criminel. Il y a une photo, je peux vous le montrer, où il est à côté de Ali Daras avec une Kalachnikov. Qui prend des Kalachnikov? C'est les armées régulières. Ce sont les FACA, la gendarmerie, la police. Ce n'est pas un cuidam qui demain se retrouve en costume cravate et dans un bureau du gouvernement. Donc, le gouvernement aurait dû déjà réagir pour entériner cette arrestation et le virer, excusez-moi le terme vulgaire, et le virer du gouvernement définitivement.
Oui, vous dites que vous êtes indigné, monsieur Joseph Bindonga, de l'inaction des autorités pour empêcher ce drame de Man ou bien dans certaines villes de la République africaine. Comment ?
Eh bien, quel est cet État qui laisse tuer sa population, qui va négocier avec les rebelles? Quand le président de la République battait campagne en 2015 et 2016, il a dit « Lorsque je serai élu, je ne laisserai même pas un centimètre carré de la République centrafricaine occupé par les rebelles, les terroristes. » Élu, M. Faustin Archange Touadéra se déclare homme de la paix. Il va négocier, signer avec les rebelles à Khartoum, alors que la Constitution, en son article 28, condamne fermement et sans abage tout acte qui porte atteinte à l'intégrité, à l'unité du peuple centrafricain. C'est l'échec de l'accord de Khartoum. L'accord de Khartoum est un accord mort-né. Un président de la République élu démocratiquement ne peut pas serrer les mains à des criminels qui tuent son peuple. Et chaque fois qu'on tue les gens, le gouvernement ne fait que condamner. Condamner quoi? Le gouvernement agit. Malheureusement, force est de constater que le gouvernement s'acoquine, est l'ami, fait participer des criminels. C'est comme si c'est une prime, le fait de les nommer au gouvernement. Et ces mêmes groupes armés, qui se disent groupes armés, mais qui sont des terroristes. J'ai toujours dit cela. J'ai toujours reproché cela au président de la République. Aujourd'hui, le président de la République, au lieu de déclarer un cessez-le-feu, ce sont les bandits qui doivent cesser le feu parce qu'ils ont la légalité devant eux. Ils ont la communauté internationale devant eux. Mais dans le cas spécifique de la République centrafricaine, c'est le contraire. C'est le gouvernement, c'est le président de la République, chef d'un État agressé, que les chefs d'État à Luanda lui demandent de cesser le feu.
Unilatéralement.
Quel jeu, quel marché de dupes M. Touadéra a accepté. Non, c'est aux rebelles qu'on doit demander, la communauté internationale devait être au chevet de la République centrafricaine, à côté de son président, de son gouvernement, de ce peuple-là, pour demander aux rebelles, nous n'acceptons pas, vous êtes illégaux, vous êtes des criminels. Et les actes qu'ils portent sur la population centrafricaine sont des actes qualifiés par l'article 28 de la Constitution de crimes imprescriptibles, de crimes contre l'État, de crimes contre le peuple centrafricain. Donc, si le président de la République se permet de proclamer cela, mais le résultat est là. Pendant ce temps-là, les terroristes s'organisent et continuent à tuer des centrafricains.
Nous reviendrons un à un pour comprendre. Des voix ne cessent aussi de dénoncer le laxisme du gouvernement dans cette affaire. Comment expliquez-vous que depuis dimanche dernier, ni le gouvernement, ni l'Assemblée nationale n'a communiqué sur cette affaire, monsieur Fidèle Gwandika?
Écoutez, monsieur Armando, l'honorable Joseph Bindonga.
S'il vous plaît, Gwandika, je suis député. Je
le
n'ai pas
député
rempli...
de la nation.
Je suis député.
Le député oui, de merci. La nation, merci. Joseph Bindonga, qui refuse ostentoirement le qualificatif de honorable. Fait une
peuple,
fixation.
C'est le peuple qui est
honorable. On n'est pas sur cette question. Oui,
il
allez-y.
Fait une fixation sur le président de la République. Tout le monde sait que c'est un homme de paix. Le président Touadéra, il est le chef suprême des armées. Ce n'est pas pour la première fois que le gouvernement centrafricain a signé un accord paix avec les groupes armés. Et faites le tour de l'Afrique centrale, de l'Afrique occidentale, pour ne pas dire Afrique de l'Ouest, il y a des accords similaires partout, même au-delà du monde. Il n'y a pas de sécurité à 100% dans aucun pays du monde. Je prendrai seulement l'exemple des États-Unis, la première puissance mondiale qui s'est vue bombarder ses plus grands édifices publics jusqu'à bombarder le Pentagone, qui est le siège de la toute puissante puissance militaire des États-Unis. Nous avons vu en France, la France est un pays doté de l'arme nucléaire, mais la France ne dort pas. Les Français continuent de pleurer. Il y a maintenant, au niveau de la justice, des terroristes qui ont été appréhendés. Un seul, tous les autres ont été tués, d'autres en fuite, qui sont en train d'être jugés.
Revenons sur le plan national.
Sur le plan national. Si le président Touadéra n'était pas véritablement un homme de paix et surtout le chef suprême des armées, M. Bendunga doit savoir que le 13 janvier,
le 13 janvier,
le pays là allait revenir dans l'anarchie. Bozizé allait prendre le pouvoir. Bozizé allait dissoudre l'Assemblée où règne aujourd'hui M. Bendunga. Peut-être que lui, il prendrait cause pour les groupes armés, comme on a vu dans la CELICA, et il serait nommé peut-être encore ministre d'un département, d'un régime totalitaire, un régime antidémocratique. Et donc, ce qui est plus éloquent, c'est que le président de la République a évité à toute la nation entière la dislocation de la République centrale.
Vous avez épuisé les 3 minutes que je vous donne, mais je vous donne un peu, quelques 2 minutes sur ce que vous avez fait pour revenir sur la question de Mbembéré, la situation récente. C'est la tuerie de masse actuellement.
Je vous dis les 3 R. Les 3 R et les autres, ce sont des ramifications des rebelles, des mercenaires que Bozizé avait ramenés en 2002 et en 2003 pour interrompre la démocratie dans notre pays. Ça, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui ne respectent plus rien, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre.
Puisqu'ils
sentent leur fin approcher.
Qu'on devait le contrecarrer.
Mais les actions sont en cours, les actions sont permanentes. L'armée nationale est sur place avec ses alliés. Et donc, je ne peux pas trahir ce que prépare.
C'est un secret de défense, selon vous.
Je suis membre du Conseil de défense et de sécurité de la République centrafricaine.
Bon, cette fois-ci,
il y a des choses que nous ne pouvons pas
communiquer
dire
ici, ça vous avez,
devant ce micro.
C'est ça ce que vous avez
mais
dit.
Mais nous avons un arsenal aussi puissant pour anéantir ces groupes de rebelles qui, heureusement pour eux, se comportent en mode guérilla et prend la population en otage. Et on ne peut pas prendre, bombarder ces gens-là en même temps que la population.
Mais il y a une stratégie. Il y a une question que vous n'avez pas encore répondu. Le laxisme. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le communiqué. Ça fait une semaine, dimanche dernier, le communiqué du gouvernement ni de l'Assemblée nationale pour condamner ne serait-ce que cette situation de Mbembéré, de 12 personnes tuées.
Prenez votre mal à conscience.
C'est pas mon mal, le mal des centrafricains. Merci. Oui, vous voulez réagir, monsieur?
Je voulais réagir par rapport aux allégations de Sieur Ngwandjika. Touadéra, civis pacem, parabellum. Lorsqu'on est chef d'État, on fait la paix avec ceux qui vivent en paix avec son peuple et on fait la guerre à ceux qui font la guerre à votre peuple. Et il a donné l'exemple des États-Unis de la France. Non, écoutez, je pense que M. Ngwandjika s'amuse sur la souffrance du peuple centrafricain. Lorsqu'il donne l'exemple de ce qui s'est passé au Bataclan, ce qui s'est passé lorsque World Trade Center a été attaqué aux États-Unis, mais la réaction des autorités politiques de ces pays-là ne se sont pas fait attendre.
C'est 10 ans après qu'on a attrapé Ben Laden. 10 ans après.
Attendez, monsieur Ngwandjika. Prenez votre mal en patience, je vous guérirai.
ces pays ont systématiquement réagi. Les autorités politiques et militaires se sont portées sur le terrain. Et la réplique a été ferme.
Par exemple, quelle réplique ? Attaquer l'Irak ? Eh bien voilà, il n'y a pas eu de réplique.
Calmez-vous, monsieur Nguandika. Calmez-vous tranquillement. Et puis on évolue dans la sérénité, le débat.
Immaturité politique.
S'il vous plaît, revenez.
Automatiquement, oui. Les autorités de ces pays-là ont pris des mesures et ont réagi en conséquence. Et aujourd'hui, dans ces pays-là,
il n'y a plus de terroristes là-bas.
Attendez, on ne peut pas éliminer les parasites, lorsqu'il y a les parasites, automatiquement, la thérapie vient. Ce qui s'est passé à Mbaïmbéré, mais c'est ce qui s'est passé partout en République centrafricaine. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. Quand les forces loyalistes arrivent, les rebelles se retirent en forêt et l'État roule sur la route, dans les villes et... Les forces de sécurité et de défense sont comme dans une nasse, ils sont harcelés. Et au lieu que ces gens-là soient poursuivis, traqués et arrêtés ou même tués jusque dans leur dernier retranchement, les forces loyalistes sont dans les rues, dans les villes. Ce qui s'est passé en Mbaïmbéré, c'est quoi ? C'était un dimanche, les soldats étaient en short, en train de boire, de s'amuser avec les femmes.
Vous insultez la mémoire des forces armées centrafricaines. Ce n'est pas digne des députés. Je vous demande de retirer cela.
Mais il y a des militaires dignes et des militaires qui ont failli à leur mission. Je suis membre de la sécurité de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. J'ai tenu des réunions avec des militaires.
Calmez-vous.
Mais je vous dis une chose. Le dimanche à Mbaïmbéré, les soldats ont laissé même leurs armes dans leur lieu de couche. Ils étaient en train de boire. Et quand les terroristes sont arrivés, au lieu d'aller chercher leurs armes, ils ont pris la poudre d'escampette. Et c'est ainsi que la population qui devrait être protégée a été massacrée.
S'il vous plaît, on écoute...
Je m'incline sur le corps des militaires, des vaillants
militaires. C'est trop tard.
Des militaires qui... Écoutez, je m'incline. J'ai été même...
C'est trop tard.
J'ai été Monsieur même Gwandika, le samedi passé à l'hôpital pour voir les militaires. Ce n'est pas vous qui êtes maître de ma conscience. Donc, c'est la faute des autorités militaires et politiques.
Vous l'avez déjà dit.
Et ce qui s'est passé,
vous l'avez déjà
c'est
dit.
Leur responsabilité.
Monsieur Bendunga, vous l'avez déjà dit, vous avez épuisé votre temps. On écoute Monsieur Ndota. Vous voulez réagir tout à l'heure. Je vois que vous avez pris note sur cette question de Mbaïmbéré avec les groupes armés qui continuent.
Vous pouvez rire, Bendunga.
Monsieur Bendunga,
s'il vous plaît.
Monsieur Bendunga, le débat, ce n'est pas entre vous deux. On écoute Monsieur Ndota.
Oui, je pense qu'il faut déplorer. Mettons un peu de hauteur dans ce débat, parce qu'on nous écoute énormément, aussi bien en RCA qu'à l'extérieur. Mbaïmbéré, je le répète encore, c'est une tuerie de trop. Et peut-être c'est pas la dernière tuerie. Tant qu'on n'a pas éradiqué les 3R, tant qu'on n'a pas frappé, et c'est ça la question que vous posez, le gouvernement n'a pas encore réagi. Le gouvernement ne réagit pratiquement jamais à ce genre de situation. On aurait pu avoir une bonne version de ce qui s'est passé à Mbaïmbéré. Nous, on a des informations sur ce qui s'est passé. Quelque part, ce que le député Bendunga est en train de dire, il y a une part de vérité quelque part. Donc, il y a des situations dans lesquelles il ne faudrait pas que les civils soient toujours ceux qui récoltent les balles perdues. Et surtout qu'on cherche à... Je l'ai dit, en 2019, les 3R avaient déjà massacré. 2020, ils ont massacré. 2021, ils ont massacré. La liste est tellement longue, on ne peut pas continuer à chaque fois, j'allais dire, à les dorloter. Sidiki, son cas a été résolu. Maintenant, on nous parle d'un certain Bobo. Le Bobo, il se balade, il serait en Djamena, il serait je ne sais pas où. Mais pourquoi on n'arrête pas ces personnes ?
C'est Sidiki tué, mais son groupe est encore fonctionnel.
Avec le général Bobo, soi-disant général, qui est connu par les autorités nationales, qui ne serait même pas de nationalité centrafricaine, mais que l'on reçoit, que l'on cajole, alors qu'on devait combattre de manière ferme. Et comme le disait tout à l'heure l'un de nos interlocuteurs, ils ont leurs ramifications, leurs complices ici. Quand je dis ici, c'est dans le gouvernement, mais également dans l'administration. Beaucoup de gens du 3R sont dans l'administration actuellement. On les identifie. Ce qu'on a fait à Hassan Bouba, on devait faire à toutes ces personnes qui sont de près ou de loin. Parce qu'aujourd'hui, on a tué 12 personnes. Je rappelle qu'il y avait 41 personnes avant. Il y avait 20 personnes encore avant. Si on fait cette comptabilité macabre, on ne s'en sort pas. Donc, il faut des réactions de force. contre ces groupes.
Avant de poursuivre ce débat, direction à présent la ville de Bukaranga dans l'Ouampéndé pour écouter le témoignage du sous-préfet Isaïe Gbanet après la tuerie de masse de 12 civils en Baïmbéré.
C'était la journée de dimanche passé, dans des après-midi à partir de 17h, que les malfrats se sont déguisés en civils. Ils ont caché les armes sous les habits et ils sont entrés dans le marché. Et comme ça, à partir de 17h, selon les versions qui m'ont été rapportées, ils ont commencé à attaquer. Et c'est comme ça que la population civile, au nombre de 11, a eu à trouver la mort et plus de 8 autres blessés évacués au niveau du district sanitaire de Ngaoundaï. Dans notre région, c'est la CPC, donc la CPC qui regroupe tous les anti-Balaka, les 3R et les autres. Donc, c'est eux toujours qui règnent dans cette région. Ça, eux, ils prennent ces régions comme leur propre région. Donc, ça ne doit être qu'eux qui sont en train de faire ce gap-là. S'il y a des pareilles attaques comme ça et qu'il y a eu plus de 11 ou de 10 morts, sans doute la population va se retirer du lieu pour peut-être se retrouver dans des champs et dans des villages voisins. Comme c'est un peu à plus de 80 km de là où je me trouve, donc c'est sûr que la population serait un peu en retrait de ces lieux.
Mais pour l'instant, est-ce que les forces de l'ordre de sécurité patrouillent dans ces localités pour sécuriser?
Oui, sans doute, ils sont là. Il y a les FACA au niveau de Bouyengou, il y a les FACA au niveau de Mbaïndéré et aussi les FACA au niveau de Man. Donc par rapport à ce qui s'est passé, c'est ceux qui vont patrouiller. Mais les grands problèmes sont le problème de moyens de déplacement. Les FACA ne peuvent pas patrouiller à pied sur des vingtaines de kilomètres. Il faut qu'il y ait un moyen logistique, qui est un véhicule de commandement. Comme ça, ça va les permettre, en cas d'urgence, vraiment d'intervenir comme il se doit. Mais comme ils sont dépourvus de véhicules, si bien que s'il y a des attaques, ceux de Bouyengou au niveau de Kaïta ne peuvent pas rejoindre leurs frères d'armes au niveau de Mbaïbiri pour pouvoir faire leurs forces. Sauf les Russes qui ont au moins leurs moyens de déplacement, les véhicules et les motos. Mais nos FACA n'ont aucun moyen de déplacement, c'est ça le grand mal.
Et donc ça veut dire qu'en Mbaïmbéré, les FACA se retrouvent là, mais pourquoi cette attaque a fait des morts?
Au fait, bien avant que ces FACA soient installés, les malfrats dans la brousse avaient averti la population, si jamais que la population accepte à ce que les FACA soient installés dans leur localité, eux, ils vont s'en prendre à la population. Quand les Russes et les FACA avaient fait les premières tournées d'études du milieu, et exactement comme les FACA sont installés, c'est comme ça que les malfrats sont en train de tenir à leur parole pour pouvoir menacer la population, s'en prendre à la population, y compris aussi les FACA. Donc, les malfrats ne veulent pas la présence des FACA dans ces zones qu'ils considèrent comme leur propriété.
Isaïe Gbanet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sous-préfet de Bukaranga, témoin de cette situation de tuerie de masse d'au moins 12 civils en Baïmbéré. Et revenons ici dans le studio B de Radio Ndekeluka. Voyons maintenant les difficultés que rencontrent les FACA, manque de moyens logistiques. C'est ce que le sous-préfet a relevé, M. Ngwandika.
Oui, le sous-préfet, c'est les yeux de la plus haute autorité ici à Bangui. Il a raison de dire ça. Et c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez très bien que nous sommes sous embargo. Certains moyens cruciaux manquent. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la mise à nu du mensonge du député Bendunga qui dit que les FACA étaient là, ils étaient en train de boire, de festoyer et ils ont laissé leurs armes ailleurs. Et c'est comme ça que la population a eu à succomber à cette attaque, alors que le préfet a bien dit que les rebelles sont venus, ce sont comme des civils, habillés en civil, avec les armes cachées quelque part, et ils ont tiré sur la population qui était sans défense. Là, c'est un mensonge. Mais le manque de matériel est criard, ça tout le monde le sait. Petit à petit, notre armée, qui est aujourd'hui une armée de garnison, va s'équiper doucement, jusqu'à atteindre son apogée. Voilà.
Monsieur Joseph Bendunga.
Armando, Monsieur Ngwandika, je ne sais pas s'il a oublié, mais 2 semaines auparavant, c'était les télés qui étaient attaqués. Et c'était les FACA qui en étaient les victimes et une population civile. Et s'il a bien écouté le sous-préfet, il a dit « Les gens ont prévenu la population ». Et la population devrait dire ça aussi aux militaires, ils le savent, que si les militaires venaient à Mbaïbéré, ils viendront les massacrer. Et où étaient les militaires pendant que les gens venaient au marché hebdomadaire? Et que faisaient ces militaires? Pourquoi n'ont-ils pas riposté? Combien de terroristes ont-ils tué? Ce n'est pas du mensonge ce que Bendunga a dit.
c'est la réalité. Je suis originaire de cette région, je suis Mboum de Centrafrique. Les Mboum sont à cheval sur trois frontières, le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine. Les gens de Mbaïmbéré parlent le même patois que moi et j'ai été appelé, j'ai été informé. Et même au courant de cette semaine, j'ai été appelé par la population de Lémouran pour me dire qu'ils sont menacés. Donc, Monsieur Ngwandjika et chers frères, très chers compatriotes, je ne suis pas venu ici pour acculer Monsieur Touadéra, mais aider Monsieur Touadéra à comprendre qu'il a de lourdes responsabilités. Je suis membre de la commission sécurité-défense. J'ai eu à échanger avec nos militaires et ce problème de manque d'équipement, vous allez voir sur l'avenue Boganda, mais tous les militaires sont ici à Bangui pour défiler. Pour quelle indépendance, je ne sais. Et que l'arrière-pays, si vous voyez tous les véhicules militaires avec les armements défilés dans la ville de Bangui, même quand je venais là, il y avait un enterrement vert combattant. Qu'est-ce qui n'est pas là-bas comme armement lourd? Et que nos soldats qui sont en campagne, qui sont sur le théâtre de guerre, n'ont même pas de quoi se défendre. Ils n'ont que peut-être une Kalachnikov avec un ou deux chargeurs. Mais tout ce qu'on nous donne, tout ce que la Russie a donné, tout ce que la communauté internationale donne, pourquoi n'utilise-t-on pas cela sur le terrain? Et un pays qui est en guerre, comment va-t-il fêter une hypothétique indépendance qui n'existe que de nom?
Voilà, on va y venir. Pourquoi l'intervention militaire arrive souvent après les exactions des rebelles, M. Ndota? Y a-t-il des difficultés? Je sais que cette question, c'est un peu difficile pour vous, mais on veut comprendre parce que la question devait être posée aux représentants du gouvernement. Malheureusement, le porte-parole, M. Serge Justine Diori, n'a pas pris part à ce rendez-vous.
Mais je suis là.
Pas rendu disponible. Vous êtes là, mais
vous m'appelez toujours au dernier moment. Par exemple, pour ce matin, vous m'avez appelé à une minute de l'émission parce que celui qui devrait venir au nom du gouvernement a refusé.
Toujours. Ça, c'est clair. Ça vous avez
N'oubliez jamais de m'appeler parce que je représente les pouvoirs publics ici.
S'il vous plaît, Armando, M. Ngwandjika, un homme politique, à minuit, on le réveille. À midi, on le réveille. On lui pose des questions sur le pays. Il est prêt.
Je suis en train de le faire.
Donc, vous êtes là en bon combattant.
Merci.
Continuons
je
le
vous
combat.
Remercie.
Mais je tiens aussi à rappeler à tous nos auditeurs, à tous nos internautes qui demandent pourquoi à chaque fois sur certaines questions, c'est M. Ngwandjika qui arrive. Et voilà,
mais donc c'est parce que les gens fuient leurs responsabilités. Voilà, ils n'ont pas la capacité de réagir.
On écoute M. Ndota, je vous en prie.
Oui, je disais que c'est une question militaire, mais en tant que civil, on observe, on constate, on voit ce qui se passe. Comme l'a dit Bendunga, et moi je l'ai vu le 1er décembre 2020, et probablement le 1er décembre 2021, on va assister à un grand défilé militaire avec arsenal, avec véhicules flambant neufs. Il n'y a pas que la Russie, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Chine. Tout le monde donne. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas Christian Dota qui parle, c'est ce que le citoyen dit. Mais tous ces véhicules que l'on voit ici à Bangui, pourquoi on ne les amène pas sur le terrain? Parce que sur le terrain, X, Y, même une moto, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi ils arrivent parfois en retard? Mais parfois, ils sont également là. J'ai toujours pris l'exemple de Obo, où les FAC ont toujours réagi avec détermination, fermeté. Et pourtant, c'est une petite section qui est là-bas, mais qui défend toujours cette petite localité avec toutes les difficultés. Parce qu'à chaque fois, le préfet là-bas, il dit, bon, Bangui nous oublie, mais en tant que militaire, même s'ils sont 7, 8, ils défendent la patrie, ils défendent les populations contre l'UPC et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a quelque part un problème de responsabilité. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, au niveau de la chaîne de commandement, il y a des choses qui se passent. Nous ne sommes pas militaires. Le ministre Ngwandjika est dans le conseil de sécurité au niveau de la présidence où les grands se retrouvent pour discuter, débattre de la sécurité. Mais sur le terrain, en tant que citoyen, malheureusement, on ne voit pas tous les efforts qui sont consentis. Il y a une forte concentration à Bangui. Sur le terrain, dans les provinces, malheureusement, il n'y a pas ça. Et c'est toujours cette région. Vous voyez l'extrême nord-est, nord-ouest, c'est là que les trois R sont toujours en train de sévir. Ils sévissent parce qu'ils savent qu'il n'y a personne. Ils attaquent, ils tuent même nos militaires et ensuite ils se replient. Pourquoi ne pas avoir une coopération claire avec, par exemple, les Camerounais? Vous voyez, du côté du Cameroun, on ne s'amuse pas avec la frontière. Idem du côté du Tchad. Donc, pourquoi ne pas louer ? Peut-être qu'il y a des choses qui se font dans ce cadre-là, mais lorsque je vois la télévision, par exemple, camerounaise, je vois comment les forces de défense du côté camerounais se déploient pour empêcher que ces trois airs aillent commettre des exactions sur le territoire camerounais. Essayons d'avoir ces différentes coopérations militaires pour éradiquer une fois pour toutes. Ou alors, c'est des enjeux géostratégiques ou géopolitiques, mais en attendant, ce sont nos populations qui meurent.
Comment comprendre qu'une zone frontalière est seulement tenue par une section, c'est-à-dire une trentaine d'éléments, à l'exemple de Mbembéré Ngaoundaye? Monsieur Fidel Ngouandjika, je vous pose cette question en tant que membre du Conseil de sécurité nationale.
Il n'y a pas qu'une seule section qui est là-bas. Il y a une rotation des forces de défense et de sécurité dans cette zone. Mais en entendre parler Monsieur Ndota, il laisse entendre que le gouvernement ou la haute hiérarchie militaire fait des rétentions sur les moyens à mettre à la disposition de nos soldats qui sont sur les théâtres des opérations. Et ils vont imaginer cela avec le défilé des troupes, avec des camions militaires. Ce n'est pas des véhicules de transport qui doivent aller combattre sur le terrain. Il faut distinguer les deux choses. Il faut distinguer. Vous voyez peut-être les gens défiler avec des armes en main, des masses 36, des machins, surtout les mains vides. Surtout les mains vides. Si vous regardez bien le défilé de 2020 et 2021, les gens défilent sans armes. Ça voudrait dire que l'armement que la Russie et d'autres puissances, comme vous voulez le dire, a mis à notre disposition, sont sur les champs, sur les théâtres des opérations. Nous avons reçu 5000 armes. Et de ces 5000 armes-là, moins de 2000 armes sont en circulation. Les 3 autres 1000 armes sont sous sanction onusienne. C'est lorsqu'on met une bataillon formé par l'Union européenne, entraîné par les Russes, qu'on donne 600 armes à ce bataillon, parce qu'un bataillon, c'est 600 personnes. Et donc, nous avons de l'armement, mais qui est contrôlé par les Nations Unies, et nous avons le droit de respecter les résolutions du Conseil de sécurité qui s'imposent à la République centrafricaine et qui s'imposent aussi au même titre à la MINUSCA ici. Nous sommes sous surveillance. Ça, c'est de un. Mais de deux, je dis que dans cette zone, vous avez fait une comparaison avec ceux qui combattent l'UPC à Obo. Dans le nord-est, ou dans le grand nord, vous savez que cette zone a été très longtemps la zone des rebelles. En commençant par les rébellions de Jean-Jacques Benafo, de la PRD, ainsi de suite. Et c'est là le bastion du général Bozizé et du CPC aujourd'hui. Il y a une certaine complicité entre la population locale et les chefs des rebelles armés et les groupes armés. Monsieur Bendunga, qui est peut-être président de la commission défense.
Non, je ne suis que membre.
Membre de la commission défense. Voyez-vous, il vient de se trahir lui-même. La population de là-bas l'a informé d'une attaque imminente. C'est à lui tout de suite d'appeler le chef d'état-major pour dire « Voilà, j'ai reçu une information. Vous avez fait rétention d'informations et les gens qui sont morts, c'est également à cause de vous, M. Bendunga. Puisque ce n'est pas votre régime, vous êtes dans l'opposition systématique. Vous recevez des informations. Je n'ai pas fini. Vous recevez des informations. Des informations cruciales. Vous l'avez dit.
Attendez. Vous voulez avoir une réponse, M. Ngouandjika. Je vous donne la parole, M. Bendunga.
J'ai dit qu'au courant de cette semaine, la population de Lemouran s'inquiète parce que les bruits de bottes évoluent vers eux. Ma circonscription Bimbo 3 est sous le feu des bandits.
De quel bandit?
Voyez.
De quel bandit?
La semaine passée.
Ne comparez pas les bandits aux groupes armés. Attendez, les bandits sont à Boira. Les bandits sont dans toutes les arrondissements.
Calmez-vous, monsieur Gualdeka.
Attendez, prenez votre mal en souffrance.
Il est en manque d'arguments.
Calmez-vous, monsieur Gwandjika.
Laissez-moi, si je n'arrive pas à m'exprimer, voilà. Je ne suis pas à court d'arguments.
Allez-y, s'il vous plaît.
Ce monsieur que vous avez devant vous ne connaît pas les réalités.
Regardez-moi dans les yeux quand vous parlez, monsieur.
S'il vous plaît, vous perturbez. Vous avez parlé tout à l'heure, on ne vous a pas dérangé.
Il m'a perturbé.
Non, allez, respectez-le. Respectez-le, ceux qui nous écoutent d'abord.
Vous vous dites membre du Conseil de sécurité, mais vous ne connaissez rien sur la sécurité dans la ville de Bangui. La zone de
regardez-moi Bingo, dans les yeux quand vous parlez.
Je vous regarde dans les yeux.
Voilà.
Vous êtes qui pour que je fuie votre regard?
Exactement.
Aujourd'hui, dans la circonscription de Bimbo 3, il y a des menaces, il y a des hommes armés. Et à quelques dizaines de kilomètres du palais de la Renaissance, le régime Touadéra est incapable d'asseoir la sécurité. La semaine dernière, les populations ont fui pour se réfugier dans la bourse.
Chez vous, mais peut-être.
Les militaires détachés là-bas ont fui.
Pour se réfugier chez vous.
Ce qui s'est passé à Mbaïmbéré, on le savait. Ils le savent. Les autorités le savent. Mais le nord de la République centrafricaine ne les intéresse pas. Toutes les forces se sont concentrées à Bangui pour protéger le pouvoir du président Bozizé, Touadéra. Et ce qu'ils ignorent, c'est que c'est toujours comme ça que, vous voyez, pendant qu'on a, le président a décrété le cessez-le-feu, pendant ce temps-là, les gens se sont réorganisés. Et actuellement, les gens attaquent. C'est pour vous dire que le régime de Touadéra ne connaît rien, et ce monsieur que nous avons devant nous ne connaît rien de la sécurité du pays. Et combien de généraux ont été déployés parmi la panoplie et de ces généraux-là qui sont à Bangui, qui gravitent autour du pouvoir et qui ne peuvent pas aller sur le terrain et que ce ne sont que des lieutenants. On a bien dit, monsieur le sous-préfet de Bokaranga a bien dit, qu'il n'y a que les Russes qui ont des motocyclettes, qu'il n'y a que les Russes qui ont des véhicules, et les véhicules qui sont ici, monsieur Ngwandjika dit qu'on défile avec les véhicules de transport de troupes. Mais les véhicules, les engins de guerre qui sont montés sur les Toyota 4x4, qu'est-ce qu'on en fait? On envoie nos soldats à la boucherie pour se faire tuer. Ils sont allés sans armes, parfois sans nourriture. Quand on donne 2000 francs à un soldat détaché sur le théâtre de combat, sans vivre, comment ce monsieur-là va-t-il aller chercher à manger dans la journée avec 2000 francs pour revenir tenir le fusil? Je pense que c'est une mauvaise organisation de la défense du pays. Et la chaîne de commandement est très mal
tenue.
Quelques
secondes.
Et ce sont les fils à papa qui sont à la tête de l'armée. On a beaucoup discuté de cela. Le militaire s'en sont plaint. Et malheureusement, jamais je n'ai vu M. Ngwandjika dans cette discussion avec l'inspection du corps des armées et avec les autres corps de l'armée. Parce qu'on ne leur donne rien. Ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas d'armes. Et parfois, la relève ne se fait pas. Et aussi, il n'y a pas de véhicule. Vous ne pouvez pas aller faire la guerre sans vous mouvoir.
Oui, parlons de l'effectif insuffisant des soldats sur le terrain. Le pays a procédé ces derniers temps au recrutement des militaires, de soldats, des milliers de soldats. Comment se fait-il que certaines localités comme Luampendé, Luam et la Waka, où sévissent les rebelles, le gouvernement ne déploie pas assez de militaires, monsieur?
Avant de vous répondre, monsieur Armando, les députés de la nation ont aussi le pouvoir de faire des propositions de loi. Et des lois qui peuvent porter leur nom, comme l'honorable Bangaya s'il l'a fait. Tu vois, il me perturbe de faire des lois.
De
et donc,
de loi.
Je voudrais un jour voir
monsieur, situation. Le pays
monsieur,
est en guerre. Qu'est-ce qu'on doit faire pour sécuriser le
monsieur
pays
Bendunga,
qu'est-ce qu'on doit faire pour
faire
arrêter
une proposition,
voilà.
De loi.
De proposition de loi.
Oui, vous allez répondre encore.
Vous avez encore 4 ans, on verra une proposition de loi concernant
de
la défense et on avisera.
Revenons à notre question.
Non,
revenons à notre question.
Vous dites
qu'il
y a un sous-effectif. Nous avons un large territoire en République centrafricaine. Le président de la République a opté pour les militaires de garnison. C'est-à-dire
l'armée
de garnison, merci. Donc, on doit créer des régions militaires dans les 20 préfectures à venir. C'est une très lourde tâche. Une très lourde tâche qui ne va pas finir pendant même le deuxième mandat du président qui s'achève dans 4 ans. Donc, on fait une projection. La programmation militaire va au-delà de 2020-2035 pour que notre armée soit au summum de sa réalisation. Donc, il n'y a pas sous-effectif. On fait avec les moyens du bord et surtout par rapport à l'embargo sur les armes que nous subissons malheureusement.
Juste un petit mot.
S'il vous plaît, on ne va pas, mais il y a un médecin de temps. Allez-y.
Cette histoire d'armée de garnison, c'est un faux problème. Lorsqu'il y a attaque, doit avoir riposte.
Il y a les riposte, vous voyez très bien.
Il n'y a pas de riposte.
Il y a les riposte.
Les gens sont venus.
Vous êtes à court d'arguments, monsieur le membre du conseil.
Mais c'est plutôt vous qui avez cherché les mots tout de suite.
Monsieur le membre du conseil.
S'il vous plaît, monsieur Ndota.
Membre de la commission de défense.
Allez-y, monsieur Ndota. Quelques secondes.
Moi, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Bon, toutes ces discussions, c'est bien beau, mais les réalités du terrain sont là. Nous voyons des FACA ou des forces de défense en grand nombre à Bangui. Mais dans nos provinces, les plaintes sont récurrentes. Et ceux qui combattent sur le terrain, malheureusement, la plupart, on dit que ce sont des alliés. Les alliés ne vont pas le combattre perpétuellement. Maintenant,
s'il vous plaît,
maintenant, on écoute le chaîne de temps. Le vrai problème, c'est cette question dont on parle, la bonne organisation de nos forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas se voiler de la face. Il y a un problème au sein des forces de défense et de sécurité. Même nous, les civils, nous écoutons, nous voyons les questions de grade, les questions de moyens, les questions de PGA. Je l'ai dit un jour ici, on a fait un effort de guerre. Moi, j'ai contribué, modestement, certes. Certains ont contribué des millions, certains ont donné en matériel, certains ont donné de la nourriture, de l'eau. Certains militaires sur le terrain, malheureusement, n'ont rien vu passer. Et on n'a jamais fait le compte de cet effort de guerre qui a été donné en direction de nos forces de défense de sécurité. Maintenant, nous sommes en train de discuter des questions de sécurité, comment ça ne va pas, alors qu'on parle de dialogue. Ce matin, je lisais dans Jeune Afrique, Noureddine, Bouzézé, ils sont à Khartoum, ils sont où? Les gens sont en train de discuter avec l'Angola qui va proposer... Non. Voilà le fond de notre problème.
Voilà,
ce sera un perpétuel.
Je vous invite à suivre l'extrait du discours du président Faustin Kantouadira, prononcé le 15 octobre dernier sur ce cessez-le-feu unilatéral.
Le cessez-le-feu unilatéral immédiat est la démonstration, si besoin en était encore, de ma ferme volonté de privilégier la voie du dialogue et non celle des armes dans le règlement de la crise qui secoue notre pays. Ce cessez-le-feu unilatéral immédiat a aussi des raisons humanitaires. Il permettra, j'en suis persuadé, à nos concitoyens des zones occupées par la CPC et les autres groupes armés d'accéder à l'aide humanitaire, aux services sociaux de base, de circuler, de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Ce cessez-le-feu vise également à protéger la population contre les violences aveugles, faciliter le dialogue républicain en cours d'organisation et la mise en œuvre de la feuille de route conjointe de Luanda. Je tiens à préciser que le cessez-le-feu immédiat ne fait pas obstacle à l'exercice par nos forces de sécurité intérieure de leurs missions régaliennes, notamment le maintien de l'ordre public et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Aussi, le cessez-le-feu ne fait pas obstacle à l'exercice de la légitime défense par les forces de défense et de sécurité chargées de protéger l'intégrité du territoire national et les institutions de la République contre toute forme de menace. Le cessez-le-feu ne fait pas obstacle non plus à l'exercice par la MINUSCA de son mandat. Enfin, le cessez-le-feu ne fait pas obstacle à l'administration de la justice. J'appelle les leaders de la CPC et les représentants désignés et le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le cantonnement dans les meilleurs délais des ex-combattants de la CPC. J'invite naturellement les leaders de la CPC à respecter enfin leurs paroles données et de donner la chance à la paix, à la sécurité et au vivre ensemble, gage d'un développement socio-économique de notre pays.
C'était le chef de l'État centrafricain Faustin Kantouadira dans le débat politique de Radio Nekeluka. Monsieur Ndota, je vois, vous demandez la parole.
Ce discours, je l'ai écouté le 15 octobre, mais personnellement, j'étais déçu. J'ai d'ailleurs réagi en disant que ce cessez-le-feu unilatéral décrété par le président était une erreur. Erreur politique, erreur de jugement. Un mois après, vous voyez ce qui se passe. Les trois heures se baladent. On continue à attaquer les forces de défense, mais également à attaquer les civils. Personne ne respecte. Et la façon d'approcher, de parler de la CPC comme si c'était des partenaires, non, c'est des criminels. Il y a eu un manque de fermeté, de mon point de vue, dans le discours du président. C'était un peu trop gentil. Non, ce sont des criminels. Même s'il y a eu des pressions de la sous-région, de l'Angola ou d'autres pays, quand il revient à Bangui, il contacte les Centrafricains qui l'ont élu. Moi, j'ai élu Touadéra en 2016, même si je ne l'ai pas refait 5 ans plus tard. Mais c'est pour que le président de la République protège moi qui suis le citoyen. Mais chaque fois, revenir dire « je suis pour la paix, je suis pour le dialogue », alors que dans une certaine mesure, on était dans une relative position de force, les forces de défense et de sécurité étant sur le terrain. Pourquoi demander ce cessez-le-feu unilatéral tout en sachant que ni les 3R qui font partie de la CPC, ni l'UPC avec les Ali Daras qui font partie de la CPC n'allaient tenir parole, ils ne tiendront jamais parole. Donc c'est la fermeté qui doit être de mise avec ces personnes.
Monsieur Nguandjika, d'abord, pourtant, en annonçant le cessez-le-feu, le chef de l'État a bien précisé que cela n'empêche les forces armées centrafricaines d'assumer leur mission régalienne qui est de protéger la population, les institutions et l'intégrité territoriale. Qu'en dites-vous sur ce point?
Monsieur Christian Emendota est un éternel déçu. Et donc ça, c'est dans ses gènes. Je pense qu'un jour, il va voir la lumière, il appréciera les gestes et faits du président Touadéra, qui est un homme de paix. Bon, aujourd'hui, la CPC de Bozizé et tous ses complices, il y a une poursuite judiciaire contre eux. Ça a été rendu public, je ne sais pas si M. Ndote est au courant, et donc la justice fera son travail.
Oui, mais Bozizé était rentré à Bangui et on ne l'a pas arrêté.
Au point de vue militaire, les choses se font à l'allure de la haute hiérarchie militaire. Donc, nous ne sommes pas en guerre avec un pays étranger. Il s'agit d'une guerre fratricide avec des mercenaires étrangers parmi ces gens. Et ces mercenaires étrangers, vous savez très bien, ce sont les hommes politiques avides de pouvoir qui les ont ramenés. Et donc, le président ne peut pas dire au FACA d'aller tuer en désordre la population civile.
Non, pas la population civile. Ceux qui attaquent la population.
Mais ceux qui attaquent,
comme le président lui-même a dit,
prennent en
otage. Cela n'empêche pas les forces armées centrafricaines de jouer leur rôle.
Ce que vous oubliez,
de protéger la population civile.
C'est une guerre fratricide. Ce que vous oubliez, c'est que ces assaillants, ces terroristes, ils se mélangent avec la population pour attaquer. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. C'est très, très, très difficile de les cibler et de les éliminer.
Oui,
donc, on va aller
doucement,
voilà. Crescendo, et on arrivera un jour à réduire au maximum.
Pas mettre fin, mais réduire.
Réduire au maximum.
Oui, on écoute, monsieur Bendunga.
Lorsqu'on parle de guerre fratricide, non, c'est un acte de terrorisme vis-à-vis du peuple centrafricain. Le mot est mal placé. Déjà, vous voyez, monsieur Nguandjika, à court d'arguments, vous voyez comment il balbutie. Je vais vous dire une chose. Gouverner, c'est pouvoir. Et le pouvoir, comme il a dit, Touadéra, il a essayé, comment, je ne sais pas s'il s'est réveillé pour dire que Batako de Ronawin, qu'est-ce qu'il a fait avec les armes qu'on lui a données? Les armes sont là à Bangui. Et les soldats, c'est un petit détachement de 30 personnes. Et la zone de Mbaïmbéré, la zone de Ngaoundaï, c'est la zone des trois frontières, le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine. La position de Ngaoundaï fait que, normalement, c'est une garnison, deux garnisons qui doivent être là avec des moyens pour circuler, pour patrouiller, comme ils le font ici.
Interpeller le ministre de la Défense et poser lui cette question.
Attendez, mais vous êtes...
Voilà, vous êtes membre de la commission défense. Interpeller le ministre de la Défense.
Nous avions interpellé, on a interpellé les ministres de la Défense et de la Sécurité qui ne sont pas venus, et l'Assemblée nationale elle-même les ont interpellés, ils ne sont pas venus. Je vous dis une chose, aujourd'hui, l'État a démissionné devant sa haute fonction de protéger la population centrafricaine. Le président de la République a failli à sa mission. Si l'Assemblée nationale est une assemblée démocratique, on devrait... démettre Touadéra.
Oui. Monsieur Christian Emendota.
D'abord, répondre au conseiller Nguandika.
C'est Gandhi, je vous en prie,
éternel déçu, c'est... Bon, je ne comprends pas trop bien, quoi. Peut-être qu'il pense que je suis un demandeur de poste ou bien d'aller voir le président. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis un citoyen.
Ça. Je n'ai pas dit ça, monsieur.
C'est ce que vous pensez.
Non. Beaucoup. Si vous pensez que c'est
dans votre tête. Voir la lumière, je ne suis pas dans l'obscurité. Voilà. J'observe bien, j'ai des lunettes, hein. Je regarde très bien, je vous vois très bien. Ouais, donc, je ne suis pas dans l'obscurité.
Il ne faut pas me prêter des attentions.
On se comprend à demi-mot dans ce pays. On est assez grand.
C'est ça.
À 55, on n'est pas des enfants.
Monsieur
Christian Mendota. Donc, je pense que ce n'est pas une histoire de déception. Le président de la République, il faut le reconnaître, il y a des défaillances à un certain niveau, au niveau de la gestion. Je l'ai toujours ici, au niveau de la gouvernance. Les ministres volent, on ne les sanctionne pas. Des hauts cadres volent, on ne les sanctionne pas. Voilà le problème. Moi, le citoyen, c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, on parle de sécurité. On constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la sécurité. Donc, il faut qu'on se dise des vérités. Pour bien aider le président, il faut lui dire la vérité. Le cessez-le-feu unilatéral qui a été décrété est une erreur jusqu'à preuve du fait.
Vous allez lui dire cette vérité quand il va vous employer. C'est à cela que vous faites allusion.
Non, j'ai pas besoin de m'employer.
Quand il va vous employer, il va vous aller dire la vérité.
Il a signé des accords avec eux à Khartoum.
Éternel.
Et à lui, il leur a accordé un cessez-le-feu.
Lorsqu'on vous donne un petit pause, vous vous taisez.
Député de la nation, je défends mon peuple.
On vous respecte parce que vous êtes député.
Monsieur Christian Mendota, Monsieur Joseph Bendonga, Monsieur Fidel Nguandika, c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Merci à vous et merci à tous nos auditeurs, à tous nos internautes d'ici et d'ailleurs qui nous suivent sur www.radiondekeluka.org. Nous avions parlé de la tuerie de masse de moins 12 civils à Baïmbéré dans la sous-préfecture de Ngaoundaï. Merci d'avoir pris part à ce rendez-vous. La partie technique était assurée par Anne-Alix Pounemati, Armando Nguendi. J'ai bénéficié de l'appui de Rodrigue Leroy Benga et de Stéphane Flemalé. Au revoir. À la semaine prochaine, même heure, même fréquence.